gosta.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mercredi 10 février 2016. Tintin, encore et toujours, c'est notre série depuis lundi pour accompagner le feuilleton, notre nouvelle production, Les cigares du pharaon, tous les soirs à 20h30. Renaud Latiez, notre tête chercheuse, nous explique les raisons du succès universel de Tintin dans un instant. Le troisième épisode. Et puis en deuxième partie cinéma, et j'aurai au bout du fil Kim Nguyen, qui est un réalisateur québécois. Son dernier film est un documentaire consacré à l'odorat et c'est vraiment passionnant. On en parle dans un quart d'heure. Tout de suite, Tintin, encore et toujours.
Tu as vu Milou, là-bas? Je ne rêve pas. Des palmiers. Une ville.
Encore un mirage.
Tu vois qu'il ne faut jamais désespérer. Oh, de l'eau, Milou. De l'eau. Oh, quel bonheur.
Bonjour Renaud Latiez.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes un ancien élève de l'ENA, que vous êtes docteur en économie, qu'aujourd'hui vous êtes inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, et par ailleurs... un tintinophile averti. Vous venez de publier aux impressions nouvelles chez Benoît Peters, donc, un ouvrage consacré au mystère Tintin, les raisons d'un succès universel. Et aujourd'hui, troisième épisode de notre série, diversité et multiplicité des niveaux de lecture. Ça, c'est le mot que l'on puisse dire. On peut lire Tintin de différentes manières, ou à divers niveaux plutôt.
Absolument. Et là, je crois qu'on tombe vraiment dans une des caractéristiques extrêmement importante de Tintin, à mon avis qu'on a du mal à rencontrer dans beaucoup de bandes dessinées comparables, c'est le caractère encyclopédique de Tintin qui fait appel dans un même album au comique, au gag, la géographie bien sûr, le voyage, l'intrigue policière, des dimensions angoissantes, hein, l'étoile mystérieuse, hein, extrêmement angoissante, ou la fin on a marché sur la lune avec des morts, hein, c'est violent Tintin. Hein. Il y a quelqu'un qui avait écrit que il manquait à Tintin une dimension de mystère et de violence, et que c'était fade dans un dictionnaire des héros, un dictionnaire amoureux des héros. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est vraiment méconnaître Tintin que de dire ça. C'est extrêmement violent. Moi, quand on lisait Tintin petit, c'est terriblement angoissant. Hein. Les morts sont nombreux, hein. les bagarres violentes, les blessés, etc. Dimension historique, on en a parlé dans la première émission. Et puis, tout un tas d'autres dimensions. Hein. On parlait de la dimension ethnologique de l'oreille cassée. On parle évidemment de la dimension politique. Enfin, tout ça fait que...
Géopolitique,
du XXe siècle. Hein, les problèmes de la guerre du pétrole dans Tintin au pays de l'or noir. Hein. Tout ça fait que Tintin peut vraiment intéresser... Quand on dit un public de 7 à 77 ans, moi je crois que c'est insuffisant, parce que personnellement j'ai commencé à lire Tintin avant de savoir lire. C'est-à-dire j'ai eu le premier album de Tintin, L'île noire, je devais avoir 4 ans, et des personnes évidemment de bien plus âgées que 77 ans continuent à lire Tintin. Bon, enfin c'était pour faire un bon mot de 7 à 77 ans.
Puisqu'on parle de lecture, s'il est vrai que cette formule est à l'emporte-pièce est un peu trompeuse, hein, les lecteurs Tintin pour les 7 à 77 ans. Est-ce qu'on peut dire, en revanche, que Tintin est un lecteur pour tout le monde, de l'extrême gauche à la droite la plus catholique, par exemple, ou la plus stricte?
Oui, absolument, absolument. Votre meilleur ami, je ne sais plus qui disait ça, Bruckner, je crois, votre meilleur ami peut être d'un bord politique tout à fait opposé à vous et être en adoration devant le Lotus Bleu et devant l'objectif Lune. Hein. Non, là, je crois qu'il n'y a pas de, clivage. On peut pas dire que le lectorat de Tintin soit systématiquement de droite ou de gauche. Si on reprend ce que je disais à l'instant sur les différents clients, je dirais, de Tintin, ça serait intéressant de voir. Est-ce qu'il y a des catégories de lecteurs qui vraiment sont fermés à Tintin? Moi, j'en ai déjà rencontré. Hein. Il y a effectivement des gens qui vous disent « Non, Tintin, ça m'intéresse pas. »
Pour des raisons idéologiques, c'est...
Non,
ou pas forcément.
Je pense pas. En général, quand on invoque les raisons idéologiques, quand on dit « Oh, Tintin, c'est colonialiste, c'est raciste », c'est qu'on n'est pas vraiment rentré dans Tintin. On n'a pas vraiment découvert l'œuvre. Ce qui manque dans Tintin, comme niveau de lecture, me semble-t-il, ça c'est indiscutable, c'est la dimension histoire sentimentale. Là, je crois qu'il n'y a pas, d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Moi, j'en ai dénombré 36, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas de personnages féminins forts, mais c'était à l'époque, il y en avait peu dans la bande dessinée. Donc, il y a peu d'intrigues, il n'y a pas d'intrigues sexuelles, même si on veut en trouver, il n'y en a pas. Et il n'y a pas d'histoire sentimentale, même si.
Il n'y a même pas d'histoire de famille. La seule famille représentée, elle est caricaturale. Elle donne envie de ne plus suivre la famille, c'est-à-dire la famille, c'est Raphaël Lampion et toute sa marmaille.
Dans l'émission précédente, on parlait de l'indétermination de Tintin. Il y a le mot essentiel quand on parle d'indétermination, c'est la liberté de Tintin. Une des raisons qui fait qu'on peut s'identifier à Tintin, c'est que c'est quelqu'un de totalement libre à cause de cette absence de contrainte. Et quand on avait demandé à Hergé, on avait dit, et justement les milieux catholiques bien pensants avaient dit, oui, mais votre Tintin, là, il est quand même pas, il a pas de parents, il a pas de famille et tout. Et on lui avait demandé de créer autre chose. D'où la création de Josette et Joco, c'est-à-dire les Jo et Zette avec des parents, hein, les Legrand qui avaient un métier, et il en a fait 5. Hein. Et puis Hergé a dit rapidement, mais moi je suis trop contraint par Josette et Joco, ça m'énerve, ces parents-là qui pleurent sans arrêt, qu'il faut toujours leur trouver des raisons d'être là et tout. Moi, laissez-moi Tintin qui a cette liberté d'agir et qui est beaucoup plus riche pour mes intrigues.
Et à partir de ce moment-là, on a commencé à analyser la vie d'Hergé pour essayer d'avoir ses explications concernant Tintin et le monde de Tintin.
Oui, moi, c'est pas trop mon propos. Hein. Il y a eu des biographies excellentes qui ont été faites, des livres de 800 pages, biographies d'Hergé par Assouline ou par Benoît Peters, qui donnent des explications très intéressantes sur l'œuvre à partir de l'auteur. On peut trouver, par exemple, au moment de la Grande Dépression d'Hergé dans les années 1959, là, de Tintin au Tibet, période où il est en difficulté, il va quitter sa femme, etc. On peut donner des explications de ce type à certaines caractéristiques de l'œuvre, au fait qu'il ait mis de plus en plus de temps à écrire, etc. Ou bien la fameuse amitié qui le liait à Chang et qu'il le poursuit, je dirais, du Lotus Bleu jusqu'à Tintin au Tibet, puisque Chang disparaît de la vie d'Hergé à peu près au moment de l'écriture du Lotus Bleu. Il retourne en Chine, ça doit être en 34-35, et Hergé ne le reverra que lorsque Chang reviendra en Europe autour de 1980 au début ou 81, et pendant toute cette période Hergé a vécu avec un petit peu ce remords de n'avoir pas tout fait pour retrouver son ami Chang, d'avoir perdu son adresse, il a même été quand même jusqu'à être invité par Chiang Kai-shek, ce qui l'interdisait de facto d'aller en Chine et donc de retrouver Chang qui se trouvait à Shanghai. Et qui est-ce qui le sauve, Georges Remy? C'est Tintin qui retrouve Chang et contre tous les avis de tout le monde, le voit vivant, une espèce de mysticisme. Il rentre dans la grotte du Yeti, là, avec une espèce d'illumination mystique à la Lévinas, là, et vraiment on sent que, ça y est, en sauvant Chang et en le ramenant en Europe, Tintin sauve toute la culpabilité d'Hergé.
Continent sans visa, une émission de la télévision suisse romande du 23 décembre 1960. Hergé, avec le journaliste Maurice Hulin.
Le premier souci est évidemment celui du scénario.
Et là, je vous arrête. Oui. Vous arrive-t-il de mettre entièrement sur le papier un scénario, de vous apercevoir lorsqu'il est écrit que ce scénario ne valait rien?
Mais ça m'est arrivé une fois récemment, un scénario absolument mis au point, et que j'abandonne, non pas parce qu'il est mauvais, il me semble au contraire très bon, mais il ne vient pas au bon moment, me semble-t-il.
Et dans le domaine du simple gag, je pense que vous en éliminez certains qui, une fois l'image trouvée, ne vous paraît
pas
très bon.
Oui, il est bien certain que pour 10 gags que nous trouvons, il en passe un ou deux. Enfin, il s'agit d'éliminer. Il faut que les gags trouvés aillent toujours dans le sens où l'histoire est racontée. Enfin, il faut qu'elles ajoutent à l'histoire et non pas qu'elles viennent en couper le rythme. Hein.
Alors votre second souci, c'est donc la mise en image proprement dit.
D'abord tout le scénario, voici d'ailleurs le simplement le scénario de la prochaine histoire, enfin qui est écrit en quelques pages, simplement pour fixer les idées. Ensuite, ce travail n'est pas encore fait pour cette histoire-ci. Ensuite, il s'agit de faire le découpage qui est la partie la plus délicate, la plus difficile au fond à faire, car il faut donc raconter l'histoire et il faut que tout soit raconté dans un nombre X de dessins sur une page. Ce travail l'a fait. Voici par exemple une page de l'histoire Tintin au Tibet, voici le découpage d'une planche, voici la planche de travail où on a travaillé vraiment avec toutes ses forces sans tenir compte de la propreté de la page.
Ah, vous en avez remis.
On y a été très fort. Et puis après, à ce stade-ci, cette feuille-ci repart chez mes collaborateurs qui, eux, alors, vont dessiner tous les accessoires. Les fauteuils dans ce cas-ci, les plantes, les décors, enfin tous les décors.
Il y a le phénomène qu'on trouve chez Balzac, par exemple, du retour des personnages. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et un des grands succès, ça, c'est on commence à le voir dans Les Cigares du Pharaon, puisqu'il y a apparition d'Alan Thompson et apparition surtout de Rastapopoulos, qui reviendront régulièrement. Et ça, vous parliez de réalisme au début, ça crée le réalisme. C'est-à-dire que vous avez ces personnages qui ont une vie en dehors des albums. Alcazar, il change de métier, il revient, il épouse, il a une femme à la fin. Hein. Et Hergé jouait là-dessus, il arrivait au bureau des studios Hergé, il disait à ses collaborateurs, vous savez pas ce que j'apprends, Alcazar a une maîtresse. Donc il les faisait vivre lui-même. Hein. Et ça se ressent dans l'œuvre, hein. C'est cette espèce de retour des personnages, c'est absolument extraordinaire. Et vous avez donc une cohabitation, une coexistence de personnages de fiction qui sont très 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 majoritaires, mais qui reviennent, et on y croit autant, que les quelques personnages réels qui existent dans Tintin, il y en a très peu, mais vous avez Al Capone, qui apparaît physiquement dans Tintin en Amérique, vous avez, même s'il n'est pas cité par son nom, Henri de Montfred, dans Les Cigares du Pharaon, hein, c'est clairement Henri de Montfred là, qui sauve Tintin de la noyade, puis qui fait du trafic d'armes, etc. Ça, c'est des personnages réels. Il fait référence à Alain Bombard, hein, dans Cocanstock, à Tino Rossi, déformé, et puis à des musiciens, on l'a dit. Mais il peut y avoir cette coexistence de personnages réels. Dans le défilé du carnaval de Tintin et les Picaros, vous avez des personnages de bande dessinée comme Astérix, vous avez Mickey, vous avez Donald, et vous avez Groucho Marx. Donc, personnage réel, mais sous la forme d'un masque. Ça n'est pas Groucho Marx, l'acteur qui défile, c'est le masque de Groucho Marx. Vous voyez, c'est comme dans Balzac, hein, le personnage, le mélange de personnages historiques, de personnages de fiction. Pour bien illustrer, je crois, ce réalisme d'Hergé qui me paraît fondamental, les personnages qui me fascinent sont souvent des personnages secondaires ou extrêmement secondaires. Il y a dans L'oreille cassée, à la page 10, je crois, un docteur qui s'appelle Eugène Triboulet. Et c'est un personnage qui a 80 ans. Je pense que c'est probablement un des plus âgés des personnages de Tintin. Il faudrait faire une recherche, mais c'est probablement un des plus âgés. Et vous savez, Tintin a été agressé par une voiture, on a failli l'écraser. Ce sont les bandits sud-américains Ramon Bada et Alonso Pérez qui voulaient l'écraser. Et un passant a relevé la plaque d'immatriculation. Tintin trouve l'adresse qui correspond à cette plaque et il s'y rend. Et il arrive à une espèce de pavillon de banlieue. Et donc, il voit sortir de chez lui ce docteur avec sa mallette, qui semble être un vieux généraliste qui continue à exercer, avec une énorme barbe, des lunettes, qui est un peu voûté, et puis un couvre-chef. Et il a avec lui un chauffeur, un chauffeur secrétaire probablement, qui l'attend, qui lui ouvre la porte de sa voiture. Et on sent dans le regard, il n'y a pas un mot, hein, ils ne disent pas un mot, c'est une seule vignette. Hein. Et il y a dans le regard du chauffeur à l'égard d'Eugène Triboulet une espèce de confiance, de complicité. On sent qu'ils ont dû faire les 400 coups ensemble, ils ont dû probablement avoir les mêmes nanas 50 ans avant. Enfin, il y a une espèce de... Ça, c'est pour moi, c'est le monde d'Hergé, ça. C'est extraordinaire. Regardez cette vignette, tout est dans le rapport entre les deux. Et Tintin, il reste en retrait, il voit la scène, et il comprend en l'espace d'une seconde, grâce à la ligne claire, grâce au dessin, il comprend que ce ne sont pas évidemment les bandits qu'il recherche et qu'il s'est trompé.
On se retrouve demain, Renaud Lathiez, pour la suite de notre série Tintin, encore et toujours. Et demain,
avec plaisir.
Le titre de l'épisode, c'est Un objectif moral clair. À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Intitulé sobrement L'odorat, le documentaire du Québécois Kim Nguyen, qui sort aujourd'hui dans quelques salles de cinéma, vient nous rappeler, de la manière d'ailleurs la plus pertinente qui soit, que l'odorat guide nos choix de vie, souvent nourrit nos passions, nos plaisirs, de la nourriture à l'érotisme. C'est un film avec un casting bien senti, sans jeu de mots, qui donne la parole à presque toutes les cultures, en tout cas qui donne la parole aussi bien à celles et ceux qui ont su développer ce sens qu'à ceux qui l'ont perdu. Bienvenue donc au monde de l'olfaction, même si on ne diffuse pas encore le programme en odorama. Et au bout du fil, de Montréal, le réalisateur du film, Kim Nguyen, bonjour.
Bonjour.
Même si chez vous, il est que minuit. Alors justement, avant de parler de votre film, est-ce que vous pouvez nous décrire les odeurs qui vous entourent en ce moment?
Ah, c'est un peu... Ce sont des odeurs un peu prosaïques. Je suis dans mon bureau. Alors, il y a ce qu'on retrouve dans la société moderne, des odeurs artificielles, malheureusement. Peut-être un peu d'odeur de bois sur mon pupitre.
Vous avez réalisé des films de fiction, le dernier en date, Rebelles sur les enfants soldats en Afrique subsaharienne, a même eu du succès et raflé des prix partout où il est passé. Alors pourquoi cette envie de passer à un autre genre, le genre du documentaire, et pour traiter de ce sujet, c'est-à-dire l'odorat?
En fait, c'était venu un peu par hasard. J'étais en train de terminer la tournée des festivals du film Rebelles, et puis j'ai eu un email qui me proposait de faire un film sur l'émotion, les souvenirs et l'odorat. Et j'ai tout de suite connecté, sans le savoir pourquoi, et j'ai envie de partir à l'aventure. On m'a dit finalement, ce que ça te dit d'aller à travers le monde et découvrir c'est quoi le lien entre la bonne bouffe, l'odorat et l'émotion. Et je me suis dit, pourquoi dire non à ça?
Alors, il y a aussi bien des scientifiques que des restaurateurs, que des gens qui vendent des herbes, des gens qui ont perdu l'odorat. Mm-hmm. Comment vous avez fait votre casting?
C'est voulu une expérience, une construction assez kaléidoscopique. Et si je me rappelle très bien que j'avais demandé des personnages liés à l'odorat et des personnalités. Entre autres, j'avais demandé des Fellini de la chasse à la truffe. J'avais demandé des parfumeurs qui cherchent à rendre les gens, à faire les gens tomber en amour. Et voilà, c'est parti de là.
Et donc, on a aussi bien un cultivateur de safran qu'un auteur de papilles et molécules, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui, un scientifique qui travaille sur la molécule. On a même une maître de cérémonie de thé, un chef cuisinier.
Oui, en plus, en fait, ce que je trouvais assez fascinant dans ce film en particulier, et c'est qu'on a réussi à identifier la musique de l'odorat. C'est-à-dire que plusieurs scientifiques se penchent sur le fait que l'odorat serait peut-être plutôt une interprétation d'ondes plutôt que de molécules, ou un mélange des deux. Et donc, on a tenté d'aller chercher les vibrations de l'odorat, de certaines odeurs, et de les transférer en fréquence et en son. Et dans le documentaire, on présente cette analyse qui est certes subjective, mais qui reste malgré tout une idée de ce que pourrait être l'empreinte auditive de l'odorat.
Alors, voyons. Ah, il est très fouetté, celui-ci. Il est vraiment très parfumé, hein?
Le vent de Nord-Ouest, c'est le parfum de ces vagues vierges que personne d'autre n'a vu ni respiré. Et c'est l'odeur de l'Atlantique Nord qui va venir mourir et s'engouffrer comme ça dans la Manche et dans le Cotentin. Et là, quand il va venir, il va recroiser un autre vent qui vient plutôt du sud, de l'Atlantique Sud, avec des parfums, des parfums de poivre de Guinée, de poivre de Cubeb, de poivre long.
Hibiscus. Fleur d'hibiscus séchée. Cassis.
C'est brun, j'entends une contrebasse, là. Hein? Juste pour vous donner une idée un peu imagée, là, je vois la contrebasse, des notes très lourdes, très puissantes. Et plus on s'approche du vin,
en descendant sur la vanille du Mexique et les piments de l'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et c'est ce parfum qui arrive sur cette côte bretonne. Et cette côte bretonne, elle a l'odeur des galets froids. Elle a l'odeur de ses goémons et de ses algues. C'est très minéral. Ça peut être même... c'est granitique.
Alors, premier apport, pour moi, c'est vrai que c'est animal, hein. C'est musqué, c'est le musc. Ça me rappelle...
C'est le zafran. Le zafran, c'est le zafran.
Ah,
mais
c'est
le zafran. C'est le zafran.
C'est
le zafran. Le zafran, c'est le
zafran. Ok, mais c'est le zafran. C'est le zafran.
Un cultivateur de zaafran, de safran, mais aussi un créateur d'harmonie à partir des odeurs. Une maître de cérémonie du thé à Paris, un chef cuisinier. Vous avez rencontré beaucoup de monde, Kim Nguyen, pour réaliser votre documentaire, qui sort chez nous avec le titre « L'odorat », mais vous, quand vous l'avez conçu, il avait pour titre « Le nez ».
Oui, effectivement, c'est un peu la transition, c'est ce qu'on s'est rendu compte en bout de ligne, c'est l'odorat souligne un peu l'expérience cognitive du nez, et je crois qu'au fil des expériences qu'on s'est rendu compte avant la sortie à Paris, c'est de vouloir encadrer tout ça, c'est-à-dire que ce film, ce que j'aimerais le plus essayer, tenter de véhiculer, donner à l'expérience du spectateur, c'est le lien entre l'émotion, les souvenirs et l'odorat, et aussi la sensualité, l'érotisme, bien sûr, parce que ce sujet-là est très intéressant. Et donc, c'était vraiment pour ça qu'on a décidé de nommer le film L'odorat pour la sortie en salle en France.
Alors, un film vraiment très intéressant, parce que on voit bien comment les gens, et nous-mêmes, à travers ces gens interviewés, on découvre à quel point ce sens, l'odorat, domine notre vie. Et puis, c'est un film assez original, parce qu'il y a des expérimentations assez audacieuses qu'on fait en ce moment. C'est un film joyeux, hein, parce que respirer un bon vin, se griser de l'odeur d'une épice, c'est bien. C'est un film où l'aventure est aussi convoquée, parce que j'aime bien, moi, ce personnage qui essaye de retenir les odeurs avant que les vents ne les emportent. Et puis, il y a aussi un caractère assez dramatique, puisque vous avez aussi rencontré ceux et celles qui ont perdu ce sens, qui ont perdu l'odorat.
Oui, effectivement, un des grands défis dans ce film, justement, c'était la partie kaléidoscopique. Et pour essayer d'avoir un fil conducteur dans le film, on a dû je revenais à la fiction et de raconter une histoire. Et c'est cette personne qui a perdu l'odorat et qui, au cours du film, nous raconte l'histoire de comment elle a tenté de retrouver son sens olfactif, qui lit les différentes histoires, les différents les féliniens de la truffe, et puis ce magicien des épices, et puis ce constructeur d'odeurs, de parfums au safran. Et la chose qui s'ajoute, Et je n'ai pas encore assisté à ce phénomène, mais à Publicis Cinéma aux Champs-Élysées, pour la première fois au monde, il y a un procédé où les expériences olfactives vont être simulées. Et donc, c'est un retour moderne de l'odorama.
Ouais.
Et donc, à partir du 10 février aux Champs-Élysées, il va y avoir un processus où les fragrances auxquelles le film fait référence vont être diffusées dans la salle.
Extraordinaire, très intéressant documentaire qui sort donc aujourd'hui, L'Odorat. Vous restez avec nous, Kim Nguyen. On va passer au questionnaire de notre jour.
Ah là là.
On va questionner votre mémoire olfactive, ça vous va?
Allez. Oui, je vais essayer.
Allez.
Peut-être vous renvoyer la question. Par
première question, qu'est-ce qu'une bonne odeur du matin pour vous, Montréalais?
Une odeur d'air minéral liée au café du matin. C'est assez classique.
Une bonne odeur de votre enfance?
Alors, c'est étrange, j'ai pas encore réussi à trouver une odeur très marquante de mon enfance bonne, mais la seule odeur que je me rappelle vraiment très présente, c'est le fauteuil de ma grand-mère qui était un mélange d'humidité et de tabac quand j'allais visiter ma grand-mère en campagne.
Une bonne odeur d'hiver?
Une bonne odeur d'hiver, c'est les foyers qui brûlent dans la campagne, justement, quand la neige est arrivée.
Au fait, il est arrivé chez vous l'hiver? Parce que là, il se fait attendre.
Il est arrivé, mais là, avec El Niño, la neige fond, c'est très étrange. C'est pas normal, enfin.
Et enfin, une odeur qui indispose généralement, mais que vous aimez quand même.
En fait, on a découvert ça, que la plupart des grands parfums ont une petite part d'odeur qui rappelle certaines matières fécales.
Par exemple?
Par exemple, à travers l'ambre gris, j'ai pas de nom de parfum en particulier, mais par contre, par exemple, Chanel numéro 5 apparemment aurait utilisé de l'ambre gris dans ses premières versions. C'est à vérifier. Et voilà, il y a quelque chose d'animal dans les odeurs de parfum qui rend les parfums encore plus attirants, apparemment.
Merci Kim Nguyen d'avoir été avec nous depuis Montréal pour nous parler de la sortie de votre documentaire L'Odorat aujourd'hui. Bonne nuit puisqu'il est minuit chez vous.
Merci.
À bientôt, au revoir. C'était Un autre jour est possible, le réveil culturel à retrouver sur franceculture.fr. Une émission qui a été préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet et réalisée par Thomas Duterre avec ce matin à la technique Eric Boissé. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée à Tintin, et en deuxième partie donc avec Renaud Natiez en première partie, et en deuxième partie, quelqu'un qui enseigne le plus sérieusement Tintin à l'université de Lancaster depuis cette année, Benoît Peters. Bonne matinée, n'oubliez pas le feuilleton Tintin, les cigares du pharaon, c'est tout à l'heure le troisième épisode à 20h30, à demain.
Ouf, allez Milou, il n'y a pas une seconde à perdre. Filons.
Il est là, je vois qu'il s'enfuit. Attends.